Bonsoir et heureux de vous avoir une fois de plus présent pour la tribune de la presse de ce vendredi 7 mars 2008 où nous abordons trois thèmes. La situation dans la cité de Luozi avec les affrontements enregistrés cette semaine entre la police nationale congolaise et les adeptes du mouvement politico-militaire Bundudia Congo. La suspension cette semaine de la participation des miliciens Mai Mai au processus de paix de Goma et le retour du mouvement politico-militaire CNDP de Laurent Nkunda à ce même processus de paix après l'avoir quitté le 21 février dernier. Notre troisième et dernier thème de ce soir sera l'obligation faite aux sociétés de téléphonie cellulaire d'identifier tous leurs abonnés, décision contestée par certains politiques congolais qui craignent que le caractère privé des communications ne soit empiété par cette mesure. Nous avons fait appel à une consoeur et trois confrères pour parler de ces trois thèmes. Madame Alimé Assadia Ali, directrice de la radio nationale tchadienne, elle est en ligne depuis N'Djamena au Tchad. Nickel Kibelbel, éditeur du journal Les Coulisses, qui a son siège à Béni au Nord Kivu, et pour le nord-est du pays, dans le nord et le sud Kivu, ainsi que la province orientale, il intervient au téléphone depuis la ville de Béni au Nord Kivu. Et ici à Kinshasa, nous avons dans ce studio deux confrères, Mesdames Bouyal Mangal, journaliste à la télévision nationale congolaise RTNC, et Ludor Balekelaï, journaliste présentateur au sein de la télévision privée Congo Web, émettant depuis Kinshasa. Au cours de cette semaine, l'actualité était marquée par les affrontements entre les adeptes du mouvement politico-religieux Bundudia Congo BDK et les éléments de la police nationale congolaise. Cet après-midi, la situation était relativement calme dans les territoires de Tchela, Luozi et Sekebanza. Toutefois, la tension règne dans certaines localités où les habitants, craignant une attaque des adeptes du mouvement politico-religieux Bundudia Congo BDK, se sont organisés en comité d'autodéfense. De leur côté, les autorités politico-administratives de la province poursuivent leurs contacts. Le point sur place au Bas-Congo avec notre envoyé spécial, Paul Kaboba.
Denis Kaloumé, ministre de l'Intérieur, et Dion Numbi, inspecteur général de la police, devraient se rendre ce vendredi à Sekebanza. Pour le général Raoult Chaloué, inspecteur provincial de la police, c'est une preuve que la paix est déjà restaurée. Dans certaines localités, la population craint d'éventuelles attaques du BDK. À Kibouzi, par exemple, ce sont les habitants qui ont mis la main sur le responsable local du BDK. Ils l'ont ensuite livré à la police. Redoutant sans doute que des innocents soient arrêtés, le gouverneur de la province a déclaré hier, jeudi, je cite, « Si un membre du Bundudia Congo se limite à ses incantations, qu'on le laisse tranquille. S'il trouble l'ordre public, c'est à la justice d'examiner son cas. » Fin de citation. Les membres du Bundudia Congo, qui craignaient ce qu'ils appellent un assaut des militaires de la base de Kitona, ont reçu l'assurance que les soldats de cette base militaire resteront bel et bien dans leur caserne. Matadi, Paul Kaboba, Radio Okapi.
Merci beaucoup, Paul Kaboba. Au cours de sa communication faite ce jeudi en sa résidence officielle à Matadi au Bas-Congo, le numéro 1 de cette province a condamné les méthodes violentes des Bundudia Congo, mais il persiste et signe, c'est par manque de professionnalisme que la police nationale a tué. Rappelons aussi que dans le compte-rendu du Conseil des ministres tenu mercredi dernier, le ministre de la Communication et Médias et porte-parole du gouvernement avait annoncé que les auteurs des violences dans le Bas-Congo seront punis. Quant au chef de Bundudia Congo, il accuse les forces gouvernementales de bombarder les populations civiles dans le Bas-Congo. Les députés de Luozi se disent surtout déçus du silence de la communauté nationale sur les violences qui sont perpétrées dans cette partie du pays, sans que les populations d'autres provinces ne réagissent. Némwanda Semi, chef du mouvement politico-religieux Bundudia Congo, BDK, était au micro de notre confrère Georges Kamujova.
Les Congolais des autres provinces nous démontrent qu'ils sont nos frères et quand nous avons des difficultés, ils nous soutiennent. Si nos compatriotes des autres provinces soutiennent ces gouvernements qui nous massacrent, mais nous, pour nous, la conclusion, c'est qu'on ne les aime pas. Parce que comment voulez-vous un gouvernement qui utilise des armes de guerre pour bombarder les civils sans armes, et les Congolais sont là à danser, à boire et à chanter dans le vent, au lieu de protester et de condamner. Mais nous demandons seulement que ceux qui commettent des injustices envers nous, qu'ils cessent. Nous demandons seulement que le gâteau congolais, qu'on le partage équitablement, pour que chaque Congolais puisse trouver son compte.
Médard Mbouyal-Mangal, vous êtes journaliste, analyste au sein de la télévision nationale congolaise, RTLC. Comment vous réagissez après avoir suivi tous ces événements?
Donc, je pourrais dire qu'il y a deux niveaux d'analyse qu'il va falloir présenter. Le premier niveau d'analyse, c'est qu'il y a un problème au niveau de l'État. Il y a la faiblesse des institutions à fonctionner. Parce qu'on ne peut pas comprendre que dès lors que l'État s'est engagé à remettre les fameux 40% aux entités décentralisées, qu'à un certain moment, l'État ne parvient pas à réaliser ses promesses. Donc, compte tenu de ces éléments, on ne peut pas imaginer justement que des individus, Bundu Dia Congo, comme association, groupe, puissent se mettre au devant de la scène pour réclamer
le partage du gâteau
national, alors que c'est prévu par la Constitution. Il y a eu même l'année dernière un séminaire qui s'est tenu à ce sujet. Donc, ça devait aller normalement. Donc, il ne fallait pas qu'il y ait mort d'homme pour qu'on arrive à reconnaître qu'effectivement, il y a un besoin qui se présente. Maintenant, il y a un autre niveau d'analyse, c'est que finalement, ça pose ce même problème au niveau de Bundu Dia Congo. Est-ce une institution, une église? Donc, il y a justement la manière mystique de présenter cette institution, ce qui fait que la communication pose problème. Lorsque Némoine Nassémi dit que les autres Congolais ne condamnent pas l'acte du gouvernement, ce qui fait qu'il y a un problème, il devra renforcer sa propre communication pour pouvoir aider les autres Congolais à leur région. Ce qui est vrai, qu'il y a une demande sociale qui est en train de se poser. C'est que le problème qui se pose à Louz, il peut se poser à Kazumba, il peut se poser n'importe où. Les faiblesses de l'État central se font ressentir, mais il y a un problème. Il va falloir que Bundu Dia Congo lui-même, donc du moins son représentant, apprenne à mieux communiquer pour justement galvaniser l'opinion congolaise à soutenir sa thèse.
Merci beaucoup, Médard Mbouyal-Mangal. Ludor Balekelaï, vous êtes journaliste, présentateur au sein de la télévision privée Congo Web, émettant depuis Kinshasa. Comment vous réagissez aussi par rapport à ces événements qui prennent de plus en plus de l'ampleur quand même au Bas-Congo?
Merci, Claude Kinza, de cette opportunité que vous nous offrez, donc, de faire quelques analyses sur cette situation préoccupante dans cette partie de la République démocratique du Congo. D'entrée de jeu, je m'en vais dire que la première responsabilité, il faut le dire très sincèrement, incombe au gouvernement. Dans la mesure où on a assisté à cette situation depuis de longues dates et que le gouvernement n'a pas pu affirmer l'autorité de l'État sur cette partie du pays. Vous savez que l'OSI, qui a été principalement le théâtre de ces affrontements, se situe au-delà de la rive, donc au-delà du fleuve Congo. C'est un découpage qui remonte à l'époque coloniale et qui fait pratiquement frontière avec le Congo voisin. D'après les informations que nous avons reçues, il paraîtrait que cette situation a perdurer depuis des années et des années, alors que nous avons dans ce pays des gouvernements qui se sont succédés. Nous avons connu dans cette province du Bas-Congo des gouverneurs qui se sont succédés, qui connaissaient parfaitement bien ce qui s'est tramé à Louosi. Et pourquoi l'État n'a-t-il pas pris des dispositions avant pour qu'on n'arrive pas au pire? Alors, pour évoquer une autre caractéristique de la faiblesse de l'État, de la non-affirmation de l'autorité de l'État, c'est le manque de suivi des décisions gouvernementales. Je me rappelle qu'il y a un ministre de la Justice qui venait d'être remplacé il y a peu, qui avait pris une mesure salutaire pour le gouvernement pour qu'il y ait assainissement dans le secteur des associations et principalement dans les églises. Jusqu'à ce jour, le peuple congolais n'est pas suffisamment informé sur le statut de la secte Bundu Dia Congo. On se demande, est-ce un parti politique? Est-ce une église? Est-ce une secte? Et si il est établi qu'aujourd'hui le Bundu Dia Congo fait partie des associations, on a dans ce pays des lois qui régissent les associations, des lois au-dessus desquelles aucune association ne peut aller. Mais ce qu'on vit aujourd'hui dans cette partie du pays, il faut dire que la deuxième responsabilité incombe justement au leadership de ce mouvement. Est-ce que l'absence du leader spirituel de ce mouvement au niveau de sa base, poserait problème? Est-ce que la maîtrise même des adeptes de Bundu Dia Congo ne pose pas un problème dans la mesure où le contact, parce que nous avons suivi sur les écrans de télévision même des témoignages ce matin des populations de Louosi qui disent, des adeptes de Bundu Dia Congo qui disent n'avoir jamais vu leur leader, qui entendent parler de lui mais qui ne l'ont jamais vu. Alors vous voyez qu'il y a un problème de communication de l'idéologie de ce mouvement au niveau de la base. C'est un problème réel.
Nous avons aussi en ligne Madame Alimé Assadia Ali. Vous êtes directrice à la radio nationale tchadienne. Vous êtes au Tchad. Il y a eu des problèmes au Tchad, des affrontements. D'abord, quelle est la situation présentement en Djamena, où vous vous trouvez?
Présentement, la situation s'est beaucoup calmée après donc les événements qu'on a connus il y a un mois, donc de calme à présentement mon bord. L'activité a repris, la présence sanitaire n'est pas aussi qu'il y a en tout cas la fois cette semaine encore, et l'état de grâce a été instauré, donc les activités en ce moment sont toujours en train de manière assez grande.
J'ai l'impression que nous avons quelques petits problèmes pour vous recevoir, Madame Alimé Assadia. Est-ce que vous avez suivi le débat? Est-ce que vous pouvez placer un mot par rapport à ce qui se passe dans la partie ouest du pays, au Bas-Congo, avec ce mouvement politico-religieux Bounoudia Congo?
Oui, je crois que ce qui se passe dans la question de l'origine n'est pas en fait de la République démocratique du Congo. Que malheureusement, dans pratiquement la plupart de nos pays africains, au sud du Sahara, nous connaissons des problèmes qui sont liés, je dirais, en grande partie à la non-affirmation de l'autorité de l'État, ou à l'absence de l'État, parce que souvent, il y a des décisions qui sont prises, qui ne sont pas appliquées. Et il y a des réactions très souvent quand ces décisions, ces textes ne sont pas appliquées, il n'y a pas l'autorité de l'État. Il y a des groupes qui s'organisent, soit à travers des partis, ou bien comme le cas de à travers des associations. Et malheureusement, c'est toujours à travers des choses violentes, on réagit, et ça finit toujours en affrontement. Et généralement, quand il y a affrontement, c'est moi qui se rend compte qu'il y a un problème, et on réagit malheureusement, c'est la triste réalité dans beaucoup de nos pays.
Merci. Donc, si je vous ai bien compris, vous dites que c'est un problème assez récurrent dans les pays au sud du Sahara. Des pays africains.
Oui, la plupart de nos pays rencontrent ce genre de problème.
Merci beaucoup. Donc, nous rentrons dans ce studio avant de repartir pour Béni, Mbuyane Mangal. Mais finalement, comment peut-on résoudre ce problème?
Bien, il n'y a pas plusieurs manières de résoudre pareil problème. Il suffit de se mettre autour de la table des discussions et de bien lire les textes, la Constitution et d'autres textes qui régissent le pays. Alors je crois, comme le leader de Bounoudia Congo lui-même a exigé, a demandé qu'on tienne quelque part la table ronde pour pouvoir faire le point de la situation. Alors je me dis, au-delà de ce qui se passe à l'OSE, il y a lieu finalement de résoudre tous les problèmes qui restaient inachevés. Je me dis, autour du dialogue, pendant le dialogue intercongolais, il y a un certain nombre de problèmes qui étaient restés pendant, au-delà même du dialogue intercongolais, mais puisque nous sommes en train d'avancer vers la décentralisation, c'est plutôt le moment de faire le point pour qu'on ne retombe pas dans les erreurs quelque part.
Donc, mais est-ce qu'on ne risque pas, mesdames Mbuyane Mangal, de retomber dans le cycle de conférences à travers toutes les provinces? Ça risque
mais justement, nous sommes un État, on est face aux défis nouveaux. Personne n'avait imaginé qu'on irait vers des dégâts actuels. Mais puisque nous devons réaffirmer le caractère des institutions, le caractère national de notre pays, l'individu, le caractère indivisible de la République démocratique du Congo, il faut justement avancer en dialoguant. Donc c'est justement à travers le dialogue, à travers les discussions, qu'on va parvenir à consolider les institutions. Il ne faut pas avoir peur du dialogue. C'est plutôt une chance. Il faut saisir des crises actuelles pour accélérer, pour davantage améliorer le fonctionnement de l'État, renforcer justement la manière d'être congolais. Parce que ça, dans beaucoup de cas, ce n'est pas clairement affirmé, mais nous devons plutôt avancer vers là.
Médard Mbuyane, merci beaucoup. Ludor Balekelaï, comment peut-on finalement mettre fin à cette frustration au Bas-Congo?
Moi, je pense que la meilleure façon de mettre fin à cette situation dans cette partie du pays, c'est d'inviter le gouvernement de la République à assumer ses responsabilités. Assumer ses responsabilités pour justement asseoir son autorité. Parce que on ne comprend pas comment un territoire comme l'Ouozi, qui est sur la carte géographique de la République démocratique du Congo, peut regrouper en son sein des compatriotes, soit-ils des adeptes d'un mouvement politico-religieux, qui soit armé, comme on nous a présenté les images à la télévision, à moins que ça soit un montage, comme le leader de Bouddha Congo lui-même le dit, mais s'il s'avère vrai qu'effectivement les adeptes de Bouddha Congo disposent des armes comme on les a vues à la télévision, je pense qu'il est temps qu'on fasse la part des choses. Pour ce qui me concerne, je suis catégoriquement opposé à l'idée d'une table ronde. Pourquoi ? Parce que ce qui se passe actuellement dans le Bas-Congo, ce n'est pas un conflit interethnique. Parce que quand on évoque l'idée de la table ronde, on fait allusion à ce qui venait de se passer à Goma. Pourquoi on l'a fait pour l'Est ? Pourquoi on ne le ferait pas pour l'Ouest ?
Mais les Bundus du Congo, d'après ce qu'on a vu à la télévision, sont contre, semble-t-il, des non-originaires.
Voilà, c'est ça aussi le problème. C'est là que l'État doit sévir. Parce que il y a la constitution de la République démocratique du Congo qui reconnaît à tout Congolais d'établir sa résidence où il veut. Et je ne pense pas qu'il est autorisé à une association comme le BDK d'interdire aux non-originaires de vivre sur ce territoire. Donc je disais que j'étais totalement opposé à l'idée d'une table ronde, parce que vous l'avez insinué en passant, ça risque d'être une habitude. On a connu dans ces pays une situation plus grave, plus dramatique que celle du Bas-Congo, en Ituri, entre les Ema et les Lendu. Ces situations aujourd'hui, la situation est calme aujourd'hui. Il n'y a pas eu de table ronde là-bas. On a connu par le passé un conflit interethnique entre les Katangé et les Kassaïens. Aujourd'hui, les deux peuples, les deux ethnies se parlent, se saluent. Il n'y a pas eu de table ronde. Je pense que si aujourd'hui, parce que les leaders de Bundu Congo exige une table ronde pour justifier des revendications personnelles, parce qu'il est à la tête d'un mouvement, il est le seul député de ce mouvement, alors certains analystes se posent la question de savoir au nom de quelle population parle-t-il pour faire valoir toutes ces revendications. Je pense qu'il faut qu'il reste dans le cadre de la constitution du pays.
Merci, Ludor Balekela. On m'informe, la réalisation m'informe que nous avons maintenant en ligne Nikèze Kibelbel. Est-ce que vous pouvez réagir par rapport à ce qui se passe au Bas-Congo? Le gouverneur du Bas-Congo a condamné les forces de police. Il dit que si les forces de police ont tué, c'est simplement par manque de professionnalisme. Mais comment analysez-vous cette déclaration du gouverneur du Bas-Congo? Pouvait-on éviter mort?
Je ne saurais donner une étiquette, mais c'est quand même surprenant, parce que selon toutes les informations que nous avons, notamment le mémorandum de l'église de Christ au Congo, qui dénonce la xénophobie de Bundu du Congo, il y a aussi des menaces sur les prêtres et les pasteurs par les adeptes, on ne voit pas comment la police pouvait ne pas réagir. Bien sûr, nous ne donnons pas raison à la police quand on dit qu'elle a tiré, mais vraisemblablement, les adeptes de Bundu du Congo se sont déjà préparés à l'avance. Vous savez peut-être que on actualise un peu le conflit au Bas-Congo, mais nous qui vivons un peu à l'Est, nous savons que les conflits ne naissent pas du hasard. C'est-à-dire que si la police, notre police congolaise, telle que nous la connaissons, elle n'est pas assez fournie pour faire face à de pareilles situations, Je comprends pas pourquoi le gouverneur doit condamner la police. Je souligne que on doit condamner toute perte en vie humaine, mais je ne pense pas que le numéro 1 de la province, qui est aussi l'autorité numéro 1 de la police, puisse se retourner contre la police. Ça me dépasse un peu. Mais je voudrais aussi ajouter à tout ce que les confrères ont dit. Le vrai problème, c'est que veut Bundu du Congo. Parce qu'à lire un peu ses revendications, ce sont des choses assez graves. Il demande le droit à l'autodétermination. Il dit que les Nekongo sont écartés des entreprises publiques se trouvant au Bas-Congo. Il parle de l'argent du pétrole, de la redéfinition des frontières. De telles revendications sont inacceptables à l'heure qu'il est, parce que ça sent un peu du Laurent Kunda, ça sent un peu de l'Ituri, ça sent en fait de tous les conflits qui ont eu domicile à l'est du pays.
Merci beaucoup, Nikèze Kibelbel. Je rappelle que vous êtes éditeur du journal Les Coulisses et vous intervenez depuis Béni, au Nord Kivu. Rendons-nous maintenant à l'est du pays avec notre second thème du jour, qui est le retrait des miliciens Maïmaï du processus de paix de Goma au Nord Kivu. Pour cause, ils dénoncent le renforcement sur le terrain militaire des positions du CNDP et affirment être négligés par les facilitateurs du gouvernement pour la mise en place des organes de suivi de la conférence de Goma. Suivant le porte-parole des Maïmaï, Kifuapua, Didier Bitaki, il était joint au téléphone par notre confrère Sylvestre Kilolo.
L'acte d'engagement, spécialement en ces articles 3, 4 et 5, on dit, nous devons nous abstenir de tout propos de nature à incer la haine ou alors à proférer des menaces contre les uns et les autres afin de ne pas remettre en cause les processus de paix. Mais d'où nous avons fait l'objet des menaces, nous appelle des impolites, des messieurs de quoi. En deuxième lieu, l'acte d'engagement prévoit que nous devons éviter tout nouveau recrutement, toute hostilité possible. Nous allons constater que même l'acte d'engagement où on disait que les détenus pour délit d'opinion ou appartenance à des mouvements insurrectionnels devraient bénéficier immédiatement d'une liberté conditionnelle. Mais ils sont toujours à Kinshasa pour la simple raison qu'ils sont en Allemagne. À ce niveau-là, nous avons dit, bon, c'est inacceptable ça. Il faudrait que nous puissions nous retirer pour éviter le pire qui a pris au pied nos prédécesseurs.
Le CNDP, pour sa part, a décidé de rentrer à la table de négociation du processus de paix de Goma après l'avoir quitté le 21 février dernier. Écoutons à cet effet son porte-parole militaire Séraphin Mirindi.
La MONUC a décidé de venir nous voir. Nous avons discuté longuement sur cette question-là. On a trouvé que c'était important. Il fallait rentrer et continuer le processus. Et nous avons dit en ce temps-là que nous, on était seulement en rupture avec la MONUC et on voulait tout simplement que la vérité soit établie. Et justement, il y a une commission de la communauté internationale qui est venue nous voir. Nous avons aussi appelé et il a été décidé lors de la réunion qu'on doit diligenter une enquête sur Kalongé pour voir réellement quelles sont les réalités de Kalongé, quelles sont les responsabilités qui seront établies pour que réellement les commanditaires soient punis, soient sanctionnés.
Le CNDP va participer dans cette commission d'enquête?
Nous avons estimé que ce soit une commission qui est tout à fait neutre et nous croyons que ça va se faire de cette manière-là. Mais nous voulons tout simplement que la vérité soit établie avec ou sans nous.
Nous rentrons dans ce studio avec vous, Mbuyal Manga. Est-ce que ça rassure? Le CNDP qui rentre à la table des négociations, après avoir claqué la porte le 21 février dernier, et les Maïmaï alors donc qui décident de claquer la porte.
Ça ne peut pas rassurer, parce qu'en fait nous sommes en train d'assister à un jeu de cache-cache. Ce sont des habitués de ce jeu-là, ils savent que plus ça perdure, ils continuent à gagner du terrain, au-delà même du terrain, ils continuent à exploiter. Parce que voilà, les conflits qui naissent dans l'Est ont eu comme base l'exploitation des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et le rapport des Nations Unies l'atteste. Alors tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, se sont retrouvés dans ces mouvements, ils affichent plusieurs intérêts à un discours officiel de paix, mais en réalité, c'est des sous-traitants pour l'exploitation du pays. Ça répond tout le problème que nous sommes en train d'aborder depuis que on a commencé l'émission. C'est l'autorité de l'État. En plus, l'État a présenté des faiblesses notables à gérer ce qu'on peut considérer comme des rébellions, ce qu'on peut considérer. Donc, tous ces mouvements donnent justement l'image d'un pays mal géré ou d'un pays pas suffisamment sécurisé. Donc, les Maïmaï et les CNDP ne peuvent faire que ça parce qu'ils savent à qui ils ont affaire. Donc, de toutes les façons, lorsqu'ils deviennent des signataires des accords, ils deviennent des partenaires, ils peuvent faire tous ces caprices, tout va à leur intérêt. Ça les suffit, c'est pas. Ils ne perdent pas. Ils ne sont pas perdants dans ce jeu-là. C'est eux qui gagnent au contraire.
Est-ce que ça confirme des personnes ou les analystes politiques qui étaient assez pessimistes dans leurs analyses quant à l'aboutissement de cet acte d'engagement signé le 23 janvier dernier?
Parce que la prise des armes chez nous est devenue la voie royale pour accéder au pouvoir. Dès lors qu'ils ont des armes, demain, nous allons les appeler leur excellence, et ainsi de suite. Ils savent que maintenant, là, demain, ça va arriver. L'honneur est déjà à la portée de leurs mains. Ils posent des actions pour davantage se valoriser, pour davantage attirer la sympathie de la communauté ou pour davantage avoir les médias à leur côté. Donc, il faut trouver une occasion de se vendre. Moi, je crois, en participant, en se retirant, tout comme en rentrant, c'est plutôt des actions médiatiques qu'ils veulent créer.
Ludor Balekela, est-ce que vous faites la même lecture que Mbuyal Mangal? Est-ce qu'il faut, pour ce mouvement, se positionner pour tirer de cette situation certaines dividendes, aussi bien politiques qu'économiques?
Tout à fait. Je suis sur la même voie, mais avec cette particularité que la crise qui sévit actuellement à l'est de la République démocratique du Congo, c'est une crise entretenue par une main noire, et une main noire qui n'a pas été vraiment dénudée, si je peux ainsi dire. Vous pouvez par exemple vous rendre compte que, en dépit de tout ce qu'on a pu faire, nous avons été à la conférence de Goma du début à la fin, on a suivi des revendications des uns et des autres, mais en ce qui concerne par exemple le problème que pose actuellement le mouvement Mai Mai, je ne dis pas que je suis ici comme leur porte-parole pour les défendre, mais je pense qu'il y a quand même une espèce d'injustice quelque part là. Comment voulez-vous que des officiels internationaux se rendent dans le fief de Laurent Nkunda pour le convaincre de retourner à la table des négociations, et quand les compatriotes Mai Mai, eux, posent leurs problèmes et ont fait semblant ou on met du temps à les écouter.
Notamment la libération des prisonniers.
Voilà, la libération des prisonniers.
Des prisonniers politiques. Ils disent être négligés également par les facilitateurs du gouvernement.
Tout à fait, par exemple. Ils posent des problèmes fondamentaux en ce qui concerne leur représentativité au niveau des organes des suivis de la conférence de Goma. C'est ça, ce sont des problèmes qui doivent être résolus au préalable conformément à l'esprit et même à l'économie de l'acte d'engagement de Goma. Mais tant que cela n'est pas fait, je pense que ça pose un problème réel. Je pense que la facilitation ainsi que tous ceux qui sont impliqués pour la mise en œuvre de l'acte d'engagement de Goma doivent faire tout pour équilibrer les choses. Moi, je comprends mal, par exemple, nous l'avons suivi quand nous étions à Goma. Laurent Nkunda conditionne par exemple le brassage de ses hommes par le retrait des FDLR. Or, on sait que la condition ou les conditions que pose Laurent Nkunda constituent déjà en elles-mêmes une sorte de dilemme. Dans la mesure où les FDLR, eux aussi, pour quitter le territoire congolais, ils conditionnent cela par la tenue du dialogue inter-rwandais. Or, le pouvoir de Kigali n'est pas chaud pour le dialogue inter-rwandais. Vous comprenez que c'est un dilemme et que cette situation va perdurer au fur et à mesure que les acteurs vrais et invisibles de la crise de l'Est, la RDC, ne sont pas associés. On avait bien voulu que le Rwanda soit aussi à la conférence de Goma pour qu'on entende ce qu'ils pensent des exigences d'FDLR qui sont, après tout, des Rwandais, mais sur les sols congolais. Mais le Rwanda n'a pas répondu à l'invitation de la RDC. On a tenu la conférence dans ces conditions-là. On a pris des résolutions qui n'avaient en rien, qui n'avaient pas de caractère coercitif en elles-mêmes. Et pour preuve, voilà le comportement des signataires de l'acte d'engagement de Goma sur le terrain.
Ludon Balekelaï, est-ce que vous pensez que c'est la bonne voie à suivre pour le Mai Mai de se retirer?
Je ne pense pas que c'est la bonne voie, mais ils doivent être écoutés.
Merci beaucoup. On me signale que Nikes Kibelbel est maintenant en ligne. Comment vous analysez le retrait du processus de Goma des Mai Mai, alors que le CNDP, qui avait claqué la porte le 21 février, a décidé de rentrer?
Bon, il faut dire que c'est d'abord un jeu de ping-pong, c'est-à-dire que c'est à tour de rôle. Mais comme le disait Lidor, je pense que les vrais problèmes, les vrais enjeux de cette guerre n'ont pas été soulevés à Goma. Le ministre Denis Kaloum avait fait un discours extraordinaire sur les vrais enjeux. En fait, les vrais enjeux sont économiques. Derrière le dos de Laurent Nkunda, il se trouve, il y a une mine à ciel ouvert où on exploite ce qu'on appelle les niobium, donc le pyrochlore. C'est un métal qui résiste à la haute température, c'est-à-dire qui sert à la fabrication des fusées, des réacteurs nucléaires et des turbines à gaz. Avec la même matière, on peut fabriquer des verres résistants. Donc, le CNDP garde bien cette mine. Dans le même discours du ministre Kaloumé, on a parlé de Colombo à Walikale. Donc, vous vous rendez compte que et les Mai Mai, et le CNDP, tous sont sur une guerre économique, mais qui présentent aux yeux de l'opinion un problème ethnique. Parce que comment le CNDP peut poser le problème, par exemple, du retour des réfugiés et tout, alors qu'au sein du CNDP, il y a des Nandi et un peu toutes les ethnies. Donc, à notre avis, les vrais problèmes pour lesquels il y a l'insécurité à l'est du pays sont d'ordre économique. Que ce soit les Mai Mai, que ce soit les CNDP ou les autres seigneurs de guerre, comment obtiennent-ils les armes s'ils ne vendent pas, s'ils ne laissent pas échapper les matières précieuses, les matières premières sur lesquelles ils ont constitué pratiquement leur quartier général. On peut tout dire, comme je le disais tantôt, à l'Ouéché, donc non loin du quartier général de Laurent Nkunda, il y a une usine où on fabrique les pyrochlores, les niobium, qui entre dans la fabrication des fusées. Donc, c'est-à-dire que quelque part là, l'État congolais qui a montré ses faiblesses, et lorsqu'on lit les experts internationaux, ils disent clairement que les matières stratégiques et sécuritaires ne doivent pas être laissées entre des mains inexpertes, entre les mains de gouvernements faibles. Or, il se fait qu'aujourd'hui, notre gouvernement est traité de faible et que notre gouvernement, même dans les codes miniers, ne fait aucun effort pour voir si réellement ce produit sort du Congo ou non. À ce moment-là, les vendeurs d'armes négocient directement avec les seigneurs de guerre. Et il y aura toujours des raisons, voilà, aujourd'hui c'est le thème des fainéants, demain c'est les mailles magistrats, et ça sera de la même chose jusqu'à la, bon, je ne dirais pas jusqu'à la fin des temps. Malheureusement, ce sont les déplacés de guerre, les populations civiles qui en paient les frais.
Nickel, Sibelbel, donc vous voulez dire que vous êtes pessimiste quant à l'aboutissement de ce processus de paix de Goma, vu les enjeux économiques dans cette partie du pays?
Oui, je suis pessimiste parce que, comme je l'ai souligné, on ne peut pas aller à une conférence, j'ai fait encore référence à la déclaration du ministre Kaloumé. Il a retracé pratiquement les enjeux de la guerre. Malheureusement, lors de la conférence, on n'a pas fait allusion aux enjeux économiques. Parce que regardez bien la composition des délégués des mouvements rebelles. Mais tous, nous, on se connaît. Moi, personnellement, je connais presque tout le monde. Et ils se connaissent. Vous avez, par exemple, du bureau de la coordination de la conférence de paix. Vous avez des gens qui se connaissent avec les Maïmaï, avec le Rancunda et ainsi de suite. Mais qu'est-ce qui leur manque de parler le langage de la vérité? Il n'y a pas de vérité parce que tout est fondé, tout est basé sur, effectivement, sur le commerce, sur l'exploitation, sur, comment dirais-je, l'échange entre les minéraux et les arbres. On peut tout dire. Vous verrez à Goma, vous ne verrez nulle part dans la matériale où on dit que les pyroclos sortent du Congo vers le Rwanda. Alors que, à Kigali, il y a une fonderie qui est effectivement exploite. Vous allez à Walikale, Dieu merci, le gouvernement vient d'intervenir les atterrissages et pratiquement le décollage des avions. Les avions à Walikale se posaient sur, disons, sur une petite distance vers la route asphaltée. Et de là, tout part. Donc nous ne contrôlons pas nos frontières, que ce soit à Durba, Ouacha, partout, ainsi de suite, où il y a les minéraux, que ce soit l'Ituri, où il y a la guerre.
Merci.
Les petits porteurs arrivent, oui. Ils prennent, ils repartent sans que le gouvernement ne soit en mesure de savoir qui, quoi, ce qui sort et ce qui reste.
Merci beaucoup, Mikaise Kibelbel. Je rappelle que vous intervenez à partir de Béni, en Nord-Kivu, et vous êtes éditeur du journal Les Coulisses. On m'informe également que Alimé Assadia Ali, directrice de la Radio Nationale Tchadienne, est en ligne. Vous avez suivi les arguments des uns et des autres. Est-ce que vous pensez que l'Afrique souffre également de ce genre de guerre, de troubles, à cause de ses richesses minières notamment?
Moi, le plus grand problème, en tout cas, c'est à l'origine de cette violence, c'est principalement ces ressources minières qui sont en fait au centre de tout ce conflit. Je pense que le temps aujourd'hui pour l'Afrique, pour tous les pays africains, c'est savoir de se parler le langage de la vérité. Parce que ces conflits, ces guerres, ces violences interminables ne profitent ni à la population, ni à nos pays, ni à ces différents groupes qui sont déchirés depuis des décennies. En fait, ce n'est pas vraiment un phénomène. Le grand temps aujourd'hui, c'est qu'on se parle.
Alimé Assadia, dans votre pays le Tchad, nous savons qu'il y a des rébellions. Apparemment, c'est la voie armée qui est mise en avant. Mais en République démocratique du Congo, il y a eu une table ronde justement pour résoudre pacifiquement ce problème de milices ou de rébellions. Quelle est la meilleure voie, d'après vous, s'il faudrait que l'Afrique emprunte pour régler ce problème de rébellion ou de milices?
Je crois que la meilleure façon, en tout cas aujourd'hui, c'est de pouvoir s'asseoir et de dire vraiment la vérité. Parce qu'on voit des processus en dialogue, mais ça vraiment aboutit à deux choses. On fait une table ronde, on fait un dialogue, on résout un problème et du coup, une autre rébellion qui met en fait un cercle infernal dans lequel on est en train de tirer depuis des décennies. Donc, il est temps de s'asseoir, mais pas seulement se parler pour se parler, mais pour se dire toutes nos vérités. C'est-à-dire que la table et les problèmes des différents mots qui minent réellement les pays depuis des années, de voir ensemble ce qu'on peut faire.
Vous voulez dire que les Africains tentent de résoudre peut-être le problème de leur rébellion autour d'une table, mais ils ne se parlent pas sincèrement. Il n'y a pas de confiance, de véritable sincérité dans les négociations?
Je n'ai pas confiance. J'ai l'impression que parfois on ne se dit pas réellement toute la vérité. On ne peut pas comprendre qu'aujourd'hui, on organise une table ronde, un dialogue pendant des mois avec tout ce que ça coûte. Et un mois, deux mois après, il y a une autre rébellion, un autre mouvement qui est là et c'est l'éternel recommencement. Donc, je dis que quelque part, il y a ce manque de confiance, il y a ce manque dans l'engagement de vérité qui a mis un peu tout ce qui est au centre de ce problème-là.
Merci beaucoup, Alimé Assadia Ali. Je rappelle que vous êtes directrice de la Radio Nationale Tchadienne. Vous intervenez depuis N'Djamena au Tchad. Passons maintenant à notre troisième et dernier thème de cette tribune de la presse. Il s'agit de l'obligation faite aux opérateurs de téléphonie cellulaire d'identifier chacun de leurs abonnés. Le conseiller chargé de la sécurité et de la lutte contre le terrorisme au ministère de l'Intérieur estime quant à lui que l'article 31 de la Constitution n'a pas été violé. D'après Maître Soudi, la mesure gouvernementale ne touche pas à la confidentialité des appels des abonnés, mais sécurise tout simplement tout le monde. Maître Soudi était l'invité de Dialogue entre Congolais de mardi dernier. Il était interrogé par notre confrère Jean-Claude Ntumba Kamanga. On l'écoute.
Je crois qu'il a fait une mauvaise lecture de l'article 31 de la Constitution. L'article 31 de la Constitution dit toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret de sa correspondance et de la communication. L'identification de l'abonné ne veut pas dire pénétrer dans la communication de l'abonné. L'identification de l'abonné, c'est de connaître qui est utilisateur de cet instrument-là qui peut véhiculer une information. Qui est utilisateur de cet instrument-là qui peut recevoir un appel international. Donc l'article 31 de la Constitution a été mal interprété par l'honorable. Vous n'êtes pas entré dans la communication d'un individu avec un autre. Non.
Ici, on va identifier
tous les utilisateurs.
Oui, mais est-ce qu'il n'y a pas risque, Maître Soudi?
Le risque est sur lequel, si l'État veut le faire maintenant, il veut chercher le numéro utilisé par l'honorable Thomas Louaka pour le mettre sous table d'écoute, il peut le faire. Il est tout à fait d'accord avec moi qu'il faut que l'État organise. La loi cadre sur les télécommunications existe. Mais lorsqu'il n'y a pas, par exemple, la loi de la manière dont l'honorable veut, l'État ne peut pas arrêter de fonctionner. L'État doit prendre les mesures nécessaires chacun dans son secteur.
Je rappelle que Maître Soudi répondait à Thomas Louaka qui participait à la même émission Dialogue entre Congolais. Pour question d'information, l'article 31 de la Constitution dont parle Maître Soudi dit ceci: toute personne a droit au respect de sa vie privée et au secret de la correspondance, de la télécommunication ou de toute autre forme de communication. Il ne peut être porté atteinte à ce droit que dans les cas prévus par la loi. Quant au député national MLC Thomas Louaka, membre de l'opposition parlementaire, il demande des garanties gouvernementales sur la confidentialité des appels téléphoniques privés. Il demande que cette mesure passe par une loi qui devrait être votée au niveau du Parlement. Thomas Louaka a été aussi interrogé mardi dernier au cours de l'émission Dialogue entre Congolais, toujours par notre confrère Jean-Claude Ntumba Kamanga.
Nous ne sommes pas contre la mesure, mais nous craignons les dérapages. Et pour cela, il faut la Constitution bien claire. Il ne peut être porté atteinte à ses droits que dans les cas prévus par la loi, pas par un effet ministériel ou interministériel. Parce que la loi va apporter des garanties que les gens ne seront pas mis sur écoute. Après un débat par les représentants de la population, c'est ça, la loi va fournir des garanties à l'exercice. En France, en Europe, partout, vous dites, il y a ces lois-là existent qui garantissent la vie privée et le secret des communications. Ce qui n'est pas le cas chez nous. Rien ne nous garantit que vous n'allez pas écouter nos communications.
Mbuyal Mangal, je rappelle que vous êtes journaliste-analyste à la télévision nationale RTNC. Est-ce qu'il se pose vraiment un problème de confidentialité dans cette mesure prise dernièrement par le gouvernement?
Mais c'est exact, nous sommes les hommes des médias. Vous savez, un confrère nigérien, Moussa Kaka, pour ne pas le citer, est en prison justement parce qu'il y a eu quelque part, il était sous écoute de ses communications avec la rébellion au Niger. Alors, je vous dis...
Vous êtes opposé à cette mesure?
Oui, moi ça crée plutôt des inquiétudes parce que se pose des questions jusqu'où. Parce que par moment, au niveau des services, si quelqu'un est de mauvaise foi, il peut vous attribuer des intentions, il peut vous attribuer la communication qui n'est pas la vôtre. Nous savons comment les choses fonctionnent chez nous. Quand quelque chose n'a pas été suffisamment élaboré, on peut attribuer la paternité à quelqu'un, une idée qui n'est pas la sienne. Donc, il peut avoir des coups fourrés à ce niveau.
Ludor Balekela, je rappelle que vous êtes journaliste présentateur du journal télévisé de Congo Web, une chaîne de télévision émettant partir de Kinshasa. Est-ce que vous partagez le même point de vue que celui de Mbuyal Mangal quant à la confidentialité des communications?
Non. Je ne saurais pas très sincèrement partager le même point de vue que lui sur cette question donc de l'identification des abonnés des sociétés de télécommunications, parce que vous savez, nous sommes un pays qui a connu beaucoup de problèmes de sécurité, beaucoup de problèmes, de beaucoup de crises politiques et consorts, et que nous sommes en train de nous remettre petit à petit, et après les élections qui ont eu lieu dans ce pays. Mais les choses auxquelles nous assistons depuis quelques temps font tellement peur qu'il faut que le gouvernement à un certain moment prenne ses responsabilités.
De quelle chose vous voulez parler?
Et je voudrais parler justement de la gestion de la télécommunication. Moi, je pense que la décision du gouvernement est très bonne, mais peut-être ce qui a manqué, c'est une campagne de sensibilisation de l'opinion à cette prise de décision. Moi, j'ai très mal, confrère, quand je vois la façon dont les cartes SIM se vendent dans la ville de Kinshasa.
Mais pourquoi le gouvernement n'avait-il pas pris cette mesure au début de la téléphonie cellulaire? Pourquoi seulement maintenant?
Je vais en arriver là-bas. Je crois que ça doit être une décision motivée, parce qu'on a connu quand même plus d'une dizaine de jours ici de tensions, de stress au sein de la population à la suite des rumeurs qu'on a propagées autour de la santé du chef de l'État. Et ces situations-là ne pouvaient que faire remonter la filière jusqu'à trouver qu'effectivement le téléphone portable a été pour beaucoup dans cette rumeur. Moi, je pense que violer le droit de la personne à la confidentialité, à la vie privée ou au secret de la correspondance, ce n'est pas une très bonne chose, mais il faut réglementer. Il ne faudrait plus que les cartes SIM se vendent de la manière dont elles se vendent, parce qu'il y a des messages, des menaces de mort que, par exemple, nous journalistes, nous recevons tous les jours ici. Après un journal télévisé, oh monsieur le journaliste, vous avez dit ceci, attendez, on va vous abattre. Mais vous appelez le numéro qui vous a envoyé ce message, ça ne passe pas. Donc c'est un problème réel. Je pense qu'il faut que le gouvernement puisse assumer ses responsabilités pour sécuriser la population.
Merci beaucoup. Malheureusement, nous n'avons plus beaucoup de temps. Nicaise Kibelbel, votre réaction rapidement par rapport à cette mesure gouvernementale?
Moi, je pense que la mesure peut être bonne, mais est-ce que c'est vraiment la priorité? Nous avons des priorités comme les services de sécurité, les services de migration, la police et l'armée. Qu'on commence par les priorités, on ne peut pas commencer un chantier, on l'abandonne pour un autre. Ça, c'est de un. Les guerres qui se passent en Est ne se font pas avec cette communication-là. Il y a des valises satellitaires qu'on ne contrôle pas, qui sont vendues dans les pays voisins. Comment le gouvernement pourra réussir à contrôler tous ces tourayas et autres qui sont utilisés par les seigneurs des guerres? Ça aussi, c'est la question.
Excusez-moi, et dans les villages, vous trouvez présentement à l'intérieur du pays, est-ce qu'on peut attribuer des adresses aux habitants de nos localités, de nos villages? Ils ont des numéros, ils ont des avenues et des numéros?
Non, mais il n'y en a pas, parce que même le problème de recensement, vous savez, il n'est pas facile de recenser quelqu'un, de recenser plutôt la population congolaise. Donc il y a un problème réel, c'est pourquoi nous disons que ce n'est pas vraiment la priorité, il faut aller à l'essentiel.
L'essentiel c'est quoi?
Nous avons
l'essentiel c'est quoi d'après vous?
L'essentiel c'est que de sécuriser nos frontières par où entrent les armes. Les armes n'entrent pas par la télécommunication, bien sûr la télécommunication peut être un instrument, mais les armes entrent par la douane, par les frontières. Il faut commencer par sécuriser les frontières, donc mettre en place des services de sécurité, des jeunes aux migrations, police, armée efficaces.
Merci
parce
beaucoup.
Parce que ce n'est que par...
Allez-y, terminez votre phrase s'il vous plaît.
Oui, j'allais dire que c'est vraiment pas, ce n'est pas en contrôle de la communication, surtout comme vous le dites, dans les villages, il n'y a pas d'avenue. Même nous qui vivons un peu à l'intérieur, il est difficile de localiser les gens même dans la petite ville de Beni. Comment on va localiser les gens en bas? Sinon, c'est un faux problème. Il faut aller plutôt à l'essentiel, réorganiser les services de sécurité, les services de renseignement, la police et l'armée, pour que nos frontières soient sécurisées et que les armes n'entrent pas. Donc les chars de combat n'entrent pas par la téléphonie comme la téléphonie cellulaire.
Merci beaucoup, Nicaise Kibelbel. Juste placer un mot, Mbuya Mangal, leader Balikila, il a posé le problème de menaces que reçoivent les journalistes à travers certains numéros anonymes. Vous êtes très aussi réticent par rapport à cette mesure, mais justement, comment faire face à ces menaces? Rapidement, une minute.
Oui, mais justement, le gouvernement vient de se saisir en retard, parce que le gouvernement a participé à tuer l'entreprise nationale qui était censée gérer le secteur de la télécommunication. Aujourd'hui, ce secteur est piloté par les privés. Donc, déjà cette difficulté, il est le moment de dire qui est qui. Mais au départ, le gouvernement n'a pas participé
à l'entreprise nationale qui est censée gérer le secteur de lui faciliter la tâche. Donc il en est de même de cas que nous sommes en train de tuer dans les autres secteurs comme le secteur des transports. On a participé à tuer l'entreprise nationale LAC pour favoriser l'émergence des privés dans le secteur. Et moralité, nous assistons à des prix donc inexplicables. Voyez-vous, par exemple, je suis du Cap occidental. Vous partez de Chicago avec quelque part dans une brousse, pour une distance de moins de 100 km, on est obligé de payer $100, $150. Parce que l'entreprise nationale n'existe pas. Dès lors que l'entreprise nationale, équivalente de autres entreprises du secteur de la téléphonie cellulaire, si elle avait la capacité de maîtriser ce secteur, les privés ne feraient pas des caprices, des chantages qu'ils sont en train de faire aujourd'hui à l'État congolais. Savez-vous qu'il y a un ministre qui a Moussouki qui a perdu son poste au PTT du fait d'avoir dénoncé les entreprises du secteur privé de la téléphonie cellulaire. C'est quelque part, je continue à soutenir, c'est la faiblesse de l'État congolais qui explique le désordre actuel.
Merci beaucoup. Malheureusement, nous sommes obligés d'arrêter cette émission, de nous arrêter par là. Vraiment, moins que lui d'orbe à l'équelle, il est juste 15 secondes pour placer un mot et nous allons clôturer l'émission.
Oui, un mot, c'est par rapport à cette mesure du gouvernement. Je pense qu'elle pourrait prendre beaucoup de temps, étant donné le nombre d'abonnés.
Et surtout beaucoup d'argent aussi. Beaucoup d'argent aussi. Aux opérateurs.
Oui, il ne faudrait pas qu'il y ait aussi la complicité entre certains officiels et ces sociétés de télécommunications pour leur permettre de ne faire du n'importe quoi. Ils nous disent 3 millions d'abonnés, 4 millions d'abonnés. Est-ce qu'on si on leur demande aujourd'hui de prouver sur base des statistiques comment ils ont répertorié ces abonnés? Je crois que ces sociétés sont incapables. Alors, il faut que les menaces de mort sur le téléphone soient considérées comme une infraction punissable par les lois du pays.
Merci beaucoup. C'est par cette conclusion que nous terminons cette tribune de la presse. Au revoir et bon week-end à tous.
Oh, Kathy.